Jeanne Leroy allait chez les bêtes, la capricieuse Goth. Au creux Saint-Jacques, une petite anse fleurie que ne visite point le gel et où le mistral ne souffle jamais, Laurent Toucantecaille et sa femme Renaude ont établi leur demeure. Une grande cabane, couverte de palmes sèches et faisant face à la Méditerranée. La maison n'est point riche, mais que les alentours sont jolis et variés. On y trouve une genêtière pleine de fleurs d'or, des bouts de lande embaumés de thym, de lavande, de romarin, de marjolaine, des replis bien frais où poussent l'angélique, le fenouil et l'hypose des prairies, minuscules, tapissées de sainfoin rose et de trèfle blanc. Un bois de pin où quelques cèdres orgueilleux se dressent comme des rois. Des morceaux de vigne aux pampres vigoureux, des bosquets d'orangers, de citronniers, de figuiers, d'oliviers, dont les fruits mûrissent au soleil. Des buissons de tamari et de genévrier, des rangées d'eucalyptus, un rideau de grêle bambou, des palmiers qui agitent sans cesse leur panache de verdure, quelques bananiers au feuillage déchiqueté par le vent, et, bien isolés, se détachant nettement sur le satin bleu du ciel, un grand cocotier. À cause de cela, on appelle l'habitation des Cantecailles le mas aux cocotiers. Pauvre mas, sans défense ni clôture, mais débordant de vie, de mouvement, de tapage. Tout alentour, claironne et glousse, roucoule, un peuple de volatiles. À la porte grillagée de leur niche, des lapins de tout poil montrent leur petit nez noir et mobile, comme pour venir reconnaître le vent. Les abeilles partent vers les champs de fleurs en nombreuses compagnies et reviennent lourdes de butin. De ça, de là, se promène un porc si gros, si gras, qu'on ne lui voit plus les jambes, si bien que Laurent Toux, en manière de plaisanterie, l'a surnommé l'échassier. Nulle part, bien loin à la ronde, il n'existe de meilleure pondeuse, ni de coq plus fier, ni de poulet plus tendre, ni de pigeon plus dodu, ni de canard mieux emplumé. Toutefois, ce n'est pas cela qui fait la gloire des Cantecailles. Le mas au cocotier a deux favorites, ou plutôt deux reines, une jolie petite fille et une jolie petite chèvre. Mais autant Maguelonne, la petite des Cantecailles, une fille de leur fille morte depuis des années, est obéissante et douce, autant Goth, la chevrette, est capricieuse. Oh, capricieuse! On l'a tellement gâtée aussi. Il faut vous dire que le Creux Saint-Georges est en pleine zone militaire, c'est-à-dire que, à droite, à gauche, derrière, en face, il y a des forts destinés à défendre et à protéger la rade de Toulon. Les forts, bien entendu, sont occupés par de l'artillerie et peuplés de fusiliers et de canonniers. Or, un jour que l'on faisait des exercices de tir, Rosile, la mère de Goth, qui était cependant bien prudente, n'eut pas le temps de se garer et fut tuée d'un coup de feu. Dire la désolation des Cantecailles, de Maguelonne surtout, j'y renonce. Les officiers payèrent Rosile très cher, mais n'empêche qu'elle était morte, la pauvre. Justement, elle avait trois cabris qui n'étaient point sevrés. Qu'allait-il devenir ? On résolut de vendre les chevreaux au boucher et d'élever Goth comme on pourrait. Ce fut Maguelonne qui lui servit de nourrice, et Dieu sait si elle remplit sa tâche en conscience. on n'aurait pas donné plus de soin à l'héritier d'une grande maison. Quand on les voyait passer toutes deux, Maguelone, un simple cotillon de fustanelle sur sa chemise de grosse toile, un fichu d'indienne autour du cou, ses cheveux bruns et frisés, lui servant de capuche l'hiver et de chapeau l'été, puis Gotte, avec un beau collier de laine rouge, orné de bouffettes et de grelots. On disait « La maîtresse, ce n'est pas Maguelone, c'est Gotte. » Ah, elles étaient bien connues au Creux Saint-Georges, les deux petites. La vilaine Gotte avait beau se montrer d'une exigence, d'une ingratitude honteuse envers sa bienfaitrice, Maguelone n'en continuait pas moins de faire toutes ses volontés, si extravagantes qu'elles fussent. Il arrivait parfois que dès la pointe du jour, la chevrette se mettait à bêler, comme en plein midi. « Elle rêve et va se rendormir, » pensait Maguelone, qui elle-même avait grand sommeil. Mais pas du tout. Les « mais » d'abord paisibles devenaient de plus en plus impérieux, si bien que l'enfant se levait, craignant que sa favorite ne fût malade. Malade. Ah bien oui. Elle avait envie de prendre l'air, pas plus. Et la fillette, bon gré, mal gré, prenait la longe pour promener Gotte dans la rosée. Le soir, si l'on avait eu l'impudence de la laisser cabrioler au clair de lune, il n'y avait plus moyen d'en venir à bout. En vain, Maguelone lui disait de sa plus douce voix « Allons, sois bien bellote, bien bravette, Gotte, mamie, rentre te coucher. » Gotte, immobile, la regardait droit en face, et quand la petite se croyait près de l'atteindre, pfft, la gracieuse prenait un temps de galop sur le caillouti qu'elle faisait retentir de son petit sabot noir. Tous les Cantecailles, le vieux Laurentou, la vieille Renaude, la petite Maguelone, perdaient leurs pas à courir après elle. Il fallait, pour la reprendre, l'aide des artilleurs voisins, qui, armés de leurs fouets, la poursuivaient jusqu'à ce qu'elle eût réintégré son domicile. Et du matin jusqu'au soir, les caprices de Gotte se poursuivaient sans interruption. Si l'on se dirigeait vers la génétière, elle voulait aller au bois. Si, un jour de grand soleil, on recherchait l'ombre des pins, il fallait suivre la chaussée, poudreuse, brûlante, pleine de moucherons taquins. Il suffisait que Maguelone emmenât la chevrette aux landes parfumées pour que Gotte désirât la prairie. Marchait-on vers les sablettes, elle préférait Saint-Mandrier. La petite fille aurait aimé, tout en gardant sa chèvre, tricoter des bas assez vieux, ou faire de l'herbe pour les lapins, ou ramasser les brindilles sèches qui donnent une belle flamme, ou pêcher des fruits de mer, ou, en vraie gamine qu'elle était, courir après les rainettes des aiguelles et les lézards gris, qui se chauffent sur les pierres, ou tout simplement se reposer en regardant passer les tartanes aux voiles blanches. Oui, da, Gotte lui en laissait vraiment le loisir. Et elle savait bien se faire comprendre. « Il ne lui manque que la parole, » disait Renaude. Possible, mais la malice ne lui manquait toujours pas. Plutôt que de marcher où il ne lui plaisait point, elle se serait fait traîner sur le flanc. Bah, il n'y avait pas de risque que l'on en arrivât à une pareille extrémité. Maguelone cédait toujours, malgré les observations des Cantecailles, qui aimaient bien Gotte, mais qui aimaient mieux leur petite fille. Et comme si la jeune chèvre n'avait pas été assez mauvaise, il y avait dans le voisinage une pie, nommée Peck, qui se faisait un plaisir de la supportable encore. « Gotte, lui disait-elle parfois, une bête jolie et distinguée comme vous, peut-elle bien vivre dans un milieu aussi ? Des lapins de clapier, un peuple de volailles, sans compter cet échassier maussade et si gros qu'il roule sur lui-même comme un tonneau. Oh oui, acquiesçait Goth rageuse, on peut dire que c'est une société désagréable. Et vos maîtres, des rustres, de vrais rustres. Rien de plus, déclarait la cabrette avec mépris. Ici, qui fréquentez-vous, je vous prie, qui prend garde à vos charmes ? Personne, répondait l'ingrate, oubliant l'affectueuse bonté de sa petite maîtresse. Qu'est-ce qui se passe devant votre masse au cocotier ? Des canons, des prolonges, des mules d'artillerie. Ah, si vous alliez à Toulon, ou à Tamari ? C'est là que vous verriez le vrai monde. De belles dames, de jolies petites demoiselles, des officiers en brillant uniforme. Goth dressait l'oreille et ouvrait de grands yeux. Que tout cela devait être magnifique. Pauvre de nous, concluait la Pec. Vous vivez ici en esclavage et je vous trouve bien à plaindre. Après ces beaux discours, Goth contemplait avec un œil d'envie les gélinottes qui vagabondaient par les landes et les alcyons qui, d'un coup d'aile, pouvaient s'élever si haut dans le ciel bleu. Par la même occasion, elle détestait les cantecailles qui la retenaient captive et se vengeait d'eux en se montrant plus volontaire, plus capricieuse encore. « Ah, mauvaise !» disait parfois Renaude. « Si jamais tu tombes entre les mains de Catinelle Manaille, notre bru de Lioule, Dieu garde, c'est elle qui te fera marcher. » Eh bien, elle y tomba entre les mains de Catinelle Manaille. Et voici comment. Un jour, Goth, attiré par les récits que la vieille Pec lui faisait de Tamari, entraîna sa maîtresse vers ce nouvel Éden. À peine était-elle en route que le ciel devint menaçant. Magulone était une bonne petite fille qui s'inquiétait de la peine des autres. Craignant que ses vieux ne fussent inquiets, elle fit tous ses efforts pour ramener Goth au logis. Mais allez donc voir! La chevrette n'obéissait jamais qu'à son caprice. Comme elles étaient sur la digue des Sablettes, où n'existe nul abri, l'orage éclata avec une violence terrible. Le mistral souffla en tempête, soulevant des vagues d'écume qui enveloppaient la petite fille et sa chèvre. La pluie tomba à torrents mêlés des grêlons, coupant comme de l'acier. Goth, prise de peur, consentit alors à marcher vers la maison. Il était bien temps. Toutes deux rentrèrent mouillées, transies, grelottantes et frissonnant de peur autant que de froid. Goth s'en tira sans plus de mal. Mais Magulone se mit au lit avec une grosse fièvre et une toux qui lui déchirait la poitrine. C'est alors que notre bru de Lioule vint pour aider la mère Grand à soigner sa petite malade. Quand elle connut l'histoire et qu'elle fut à même d'apprécier le mauvais caractère de Goth, elle décida d'emmener la capricieuse et de la remplacer par une petite Francette très docile et très douce. Il fallait la voir, Catinelle Manaille, et sa figure de vieille maugrabine, et sa longue main sèche, et la gaule cinglante qui lui servait à dresser les méchants. Goth n'en mena pas large, je vous prie de le croire. Aujourd'hui, dans les gorges sauvages, désertes, silencieuses, c'est avec un regret amer qu'elle se souvient du mât au cocotier, des vieux cantecailles, du troupeau de volatiles, des hôtes du clapier, des mules d'artillerie, et même de l'échassier grognon. Mais ce qu'elle pleure surtout, oh, surtout, c'est sa bonne petite maîtresse, Maguelonne. Trop tard, hélas, ma pauvre Gotte.